VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 19h30 temps universel. Ce mercredi 12 juillet 2017, au sommaire. Les attentats suicides menés par des femmes font une quinzaine de morts à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Réunion à Bamako du comité de suivi de l'accord de paix au Mali alors que des combats entre signataires sont signalés dans la région de Kidal. Le Kremlin dit ne pas être mêlé à la rencontre l'an dernier entre le fils aîné du président Trump et une avocate russe. Et Parti Magazine, nous reviendrons sur la baisse des salaires des soldats et officiers de l'armée tchadienne.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assurent la garantie de l'État. Ne les provoquez pas.
Ne ratez pas également les informations sur l'actualité économique et le sport. Mais tout d'abord, le journal. Le comité de suivi de l'accord de paix de 2015 au Mali se réunit à Bamako. Au même moment, deux groupes armés signataires de l'accord d'Alger s'affrontent près d'Anéfis dans la région de Kidal. Le point avec notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Après de très violents combats entre la CMA et la plateforme dans deux localités entre Anéfis et Kidal, faute de renforts, la plateforme a été contrainte de se replier hors de la ville d'Anéfis qui est tombée aux mains de la CMA. Selon les habitants que nous avons pu joindre au téléphone, le bilan provisoire est de plusieurs morts et des blessés, des armes détruites. Au même moment, à Bamako, les différents groupes armés à travers leurs représentants et les médiateurs se sont rencontrés dans la capitale malienne. C'est dans le cadre du comité de suivi de l'accord d'Alger CSA. Il a surtout été question du MOC qui doit être opérationnel à Kidal le 20 juillet de ce mois. Mais surtout, le retour de l'administration à Kidal. Mieux, le gouvernement malien s'apprête à envoyer une mission de bons offices dans la capitale de l'Adra des Iforas. Pour le gouverneur de la région de Kidal, cette mission doit faire le déplacement malgré la situation de guerre qui se trouve sur le terrain. Sidi Mohamed Ag Ishrach, gouverneur de la région de Kidal.
Et ce n'est pas parce que les gens s'affrontent sur le terrain qu'il faut s'asseoir à cette mission. Je pense qu'il faut la poursuivre et peut-être qu'elle aboutira à quelque chose. C'est même la meilleure opportunité d'aller sur le terrain et tenter de mettre fin d'abord et de réconcilier ensuite les gens qui sont en train de se battre.
Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au moins 15 personnes ont été tuées dans 4 attentats suicides à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
4 femmes kamikazes se sont fait exploser en différents endroits du quartier Molaï Kelemari. La plupart des victimes sont des membres du groupe d'autodéfense qui font des contrôles à Maïdougouri et participent à certaines opérations pour combattre Boko Haram aux côtés de l'armée nigériane. Les jeunes femmes sont le plus souvent utilisées comme bombes humaines pour attaquer les postes de contrôle, les mosquées, les marchés et les stations de bus. Les attentats suicides sont le principal mode opératoire de Boko Haram après 8 années d'insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria. Les attaques ont fait au total 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés.
En République démocratique du Congo, l'ONU a dénombré 80 000 personnes déplacées en 6 jours, fuyant des violents combats entre une milice de l'armée congolaise dans le territoire de Fizi, au sud de Kivu. Le 29 juin, des combats ont éclaté entre l'armée congolaise et les miliciens Maïmaï Yakotumba, qui avaient pris le contrôle de 4 localités avant d'en être délogés 5 jours plus tard. L'ONU estime qu'il y a 3,7 millions de déplacés dans le pays. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Et toujours en RDC, un journaliste de la radio-télévision d'État à Banga Karaba a été tué à Bunia, dans le nord-est du pays. L'Union nationale de la presse du Congo en Ituri exige toute la lumière sur ce meurtre. Le syndicat a aussi décrété des journées sans radio et sans journaux aujourd'hui et demain jeudi. La police zimbabwéenne a violemment dispersé à Harare une manifestation de l'opposition. Il dénonçait des irrégularités dans la procédure d'enregistrement sur les listes électorales en vue des élections l'année prochaine. Le point avec Solange Nyamulisa.
Des dizaines de jeunes militants voulaient manifester à Harare pour dénoncer la nomination de responsables des centres d'enregistrement. Les forces de l'ordre à grand renfort les ont dispersés à coups de matraque, gaz lacrymogène et canons à eau. Le mouvement pour le changement démocratique, principal parti d'opposition qui a organisé cette manif, a condamné les excès de la police sur les manifestants et les journalistes. La police réprime brutalement toute manifestation au Zimbabwe, spécialement depuis le mouvement de contestation animé par la société civile qui a agité plusieurs villes depuis un an. Malgré ses 93 ans, Robert Mugabe a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat aux prochaines élections l'année prochaine.
Le Soudan a annoncé, suite à la prolongation par Washington des sanctions économiques imposées à Khartoum, de suspendre les discussions avec les États-Unis à ce sujet. Le président américain Donald Trump a prolongé jusqu'à octobre la période probatoire décidée à l'origine pour 6 mois par son prédécesseur Barack Obama, avant une éventuelle levée totale de cet embargo vieux de 20 ans. Le ministère français des Affaires étrangères répond à l'opposition tchadienne. Le Quai d'Orsay a déclaré que la France considère le Tchad comme un pays ami et partenaire au lendemain d'une lettre ouverte de l'opposition tchadienne dénonçant le soutien de l'Occident au président Idriss Déby Itno qui dirige le pays depuis 1990. En Libye, une coalition des forces loyales au gouvernement libyen d'Union nationale a annoncé avoir repoussé une offensive lancée par des groupes rivaux à l'est de la capitale après 3 jours de combat. L'Italie a accueilli aujourd'hui plus de 3500 migrants secourus au large de la Libye. Parallèlement, Rome continue de faire pression sur les autres pays européens à ouvrir leurs portes. Eric Manirakiza.
Le plus jeune de ces migrants est un petit Camerounais prénommé Christ. Il est né hier au milieu de la Méditerranée sur un bateau surchargé avant d'être secouru. Le petit Christ sera privé de son père qui est encore détenu en Libye. Les gardes-côtes italiens qui ont coordonné les opérations de secours ont relevé un nombre important d'enfants et d'adolescents. Les 3500 migrants, dont 2700 sauvés hier, sont arrivés en Sicile. Depuis plusieurs semaines, l'Italie exhorte ses partenaires européens à l'aider à mieux répartir les migrants et endiguer les départs. Le Premier ministre italien Paolo Gentiloni, le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel doivent en discuter à Trieste, dans le nord-est de l'Italie.
La France va créer 7500 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile et 5000 pour les réfugiés d'ici 2019. Le Premier ministre Édouard Philippe qui a fait l'annonce aujourd'hui juge que son pays n'est pas à la hauteur sur le dossier des migrants. Il a aussi confirmé son intention de vouloir raccourcir les délais de traitement des demandes d'asile qu'il souhaite voir passer de 14 à 6 mois.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin dément toute implication dans la rencontre entre Donald Trump Jr., fils aîné du président américain, et une avocate russe en 2016. La présidence russe qualifie le dernier scandale de feuilleton qui dure trop longtemps. Les précisions de John Linden.
Nous n'avons jamais été en contact avec cette avocate et nous n'avons rien à dire sur cette histoire, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'affaire rappelle un feuilleton qui dure depuis trop longtemps. Il ne faut pas nous associer à un tel feuilleton, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le chef de la diplomatie russe s'est dit surpris par un tel montage. Donald Trump Jr. a dit avoir rencontré en juin 2016 une avocate russe, Natalia Veselnitskaya, présentée comme une avocate du gouvernement russe en possession d'informations potentiellement compromettantes sur Hillary Clinton. L'avocate russe a nié tout lien avec le Kremlin. La révélation des circonstances de leur rencontre à New York a renforcé les soupçons de ceux qui craignent une collusion avec la Russie pour battre la candidate Hillary Clinton.
Christopher Wray, nommé par Donald Trump pour remplacer James Comey à la tête de la police fédérale américaine, était devant une commission du Sénat qui a démarré ce matin les auditions pour sa confirmation. M. Wray a assuré qu'il agirait au nom d'une justice impartiale. Je ne laisserai jamais le travail du FBI être influencé par autre chose que les faits, le droit et la quête d'une justice impartiale. Son prédécesseur James Comey a été limogé par le président Trump il y a 2 mois. Le cessez-le-feu en vigueur depuis dimanche dans le sud de la Syrie sous l'égide de la Russie, des États-Unis et de la Jordanie est globalement respecté. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Il dit espérer un accord similaire sur la mise en place de 3 autres zones de désescalade lors du prochain cycle de négociations sur la Syrie. Ce sera à Astana en août prochain. Deux Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne lors d'affrontements dans le camp de réfugiés de Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne affirme qu'aucun soldat n'a été blessé, refusant toutefois de préciser pour quelles raisons les militaires se trouvaient dans le camp de réfugiés de Jenin. La police turque a tué 5 membres présumés du groupe État islamique dans le centre de la Turquie et procédé à l'arrestation de plus de 230 suspects à travers le pays. Ces arrestations surviennent alors que la Turquie a été frappée depuis 2 ans par plusieurs attentats attribués au groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eki Abodou.
La compagnie aérienne Air Zimbabwe, qui affiche une dette de plus de 300 millions de dollars, a licencié 200 salariés, près de la moitié de ses effectifs. Le but est de réduire les coûts et tenter d'éviter la faillite dans un pays où l'économie est en berne depuis les années 2000. Dans un rapport publié par le cabinet américain McKinsey Africa, la Chine est devenue en 2 décennies le partenaire économique le plus important pour l'Afrique. Le commerce sino-africain a été multiplié par 20 et les investisseurs chinois sont de plus en plus nombreux. L'implication de la Chine en Afrique serait donc plus importante et plus diverse que ne le suggèrent les précédentes études. En Côte d'Ivoire, 2 marques, Solibra et Brassivoire, se disputent le marché de la bière à coups de panneaux publicitaires. Le marché de la bière est en forte croissance. Sa taille a doublé depuis 2007. Brassivoire compte investir 150 millions d'euros pour produire 1,6 million d'hectolitres de bière par an contre 2 millions pour Solibra. Le marché ivoirien est estimé à 2,8 millions d'hectolitres par an. L'ananas guinéen sera bientôt sur les marchés européens grâce au gouvernement du Premier ministre Mamadi Youla qui a signé avec l'importateur VB International. 100 tonnes sont attendues en France en octobre prochain et en janvier 2008.
Voilà, vous avez reconnu donc ce générique. C'est la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Al Ahly, le Tripoli ne veut pas jouer son match retour des quarts en Tunisie.
Tout à fait, Abdourahmane. Les Libyens d'Al Ahly Tripoli affronteront le club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel pour les quarts de finale de la Ligue africaine des champions. La formation libyenne a demandé à la Confédération africaine de football de lui permettre de disputer le match retour en Égypte du fait des troubles chez elle. Les clubs libyens avaient pour habitude de disputer leurs matchs continentaux en Tunisie à cause de l'instabilité sociopolitique qui règne dans leur pays.
Les joueurs du FC Barcelone ont repris l'entraînement aujourd'hui.
Effectivement, les Blaugrana ont retrouvé la pelouse sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Ernesto Valverde, mais sans Léo Messi, Neymar et Gérard Piqué, présentement au Japon pour faire la promotion du club. L'effectif n'a enregistré qu'une seule arrivée, celle de Gérard Deulofeu en provenance d'Everton, et 2 autres départs, Jérémy Mathieu et Christian Tello. L'équipe doit s'envoler le 19 juillet prochain pour les États-Unis où elle disputera des matchs amicaux dont un classico contre le Real Madrid.
Et justement, Real Barça à Miami, c'est du foot business.
Oui, et c'est dans le cadre de l'International Champions Cup avec des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, les deux Manchester, le PSG, l'AS Rome, la Juventus et Tottenham, tous invités aux États-Unis pour ce tournoi amical. Le clou de cette grande messe du foot business sera un classico Real Madrid-FC Barcelone le 29 juillet à Miami avec des billets vendus entre 250 et 4 500 dollars.
Kittel, puissance 5 au Tour de France.
Oui, l'Allemand Marcel Kittel, vainqueur pour la 5e fois depuis le départ, a dépassé son record personnel de victoire d'étape sur le Tour de France. Une victoire de plus qui fortifie la position de Kittel dans la conservation de son maillot vert. En tout cas, c'est la 14e victoire de sa carrière sur les routes du Tour. Christopher Froome conserve son maillot jaune.
Et on termine par ce double coup de tonnerre à Wimbledon. Andy Murray chute et Djokovic qui abandonne.
Très étonnant, le Serbe Novak Djokovic, 3 fois titré à Londres 2011, 2014 et 2015, a jeté l'éponge face à Thomas Berdych, qualifié du coup pour les demi-finales. Djoko avait fait appel à un médecin après avoir concédé la première manche. Bien avant, l'Américain Sam Querrey, 28e mondial, a surpris en éliminant le numéro 1, Andy Murray.
Merci beaucoup, Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour au Tchad. Le gouvernement du président Idriss Déby Itno a revu à la baisse les salaires et indemnités de ses soldats et généraux dans le cadre des mesures d'austérité qu'il prend pour redresser l'économie nationale. Un décret a été signé à ce sujet le 3 juillet dernier. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
Après le gel de salaire et indemnité des fonctionnaires civils et ceux de la police nationale, c'est le tour des militaires, tous grades confondus, de subir les mêmes conséquences de la crise économique et financière que traverse le pays. Désormais, les officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui gagnaient 800 000 francs CFA pendant la période de vache grasse, comme l'a si bien affirmé le président de la République Idriss Déby Itno, chutent en flèche. Ils doivent dorénavant se contenter de 360 000 francs CFA et un soldat chute de 50 000 à 34 000 francs CFA. Au cours d'un débat ce lundi à l'Assemblée nationale sur le projet de loi rectificatif à la loi des finances 2017, les députés n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Le député Nouradine Deloua Kassiré Koumako s'érige en véritable défenseur des militaires.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assurent la garantie de l'État. Ne les provoquez pas. Les détournements des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le plus simple, c'est de mettre les gens compétents, de bien les payer pour qu'ils ne soient pas tenter. Mais ne commencez pas par ceux qui assurent votre sécurité et qui peuvent vous provoquer des troubles.
Tout comme le général de division Rotuan Yuma Golom aujourd'hui, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui a fait observer que le gouvernement est en train de jouer avec le feu.
Ces militaires ont des charges. Ils louent, ils se soignent. On ne peut pas jouer avec le feu. Je trouve qu'il n'y a pas un sens humain dans cette décision. Pourquoi le Premier ministre qui décide de réduire à gauche et à droite maintient son fonds de souveraineté?
Évariste Ngarlom-Toldé, politologue et ancien chercheur à l'université de N'Djamena, estime qu'il est normal que les militaires contribuent au redressement de l'économie nationale, même si cette mesure peut être source d'insécurité.
C'est vrai, ils veillent nuit et jour sur la sécurité des biens et des personnes, mais toujours est-il qu'ils ne sont pas des fonctionnaires différents des autres. Et on estime qu'en tant que fonctionnaires, les militaires doivent également subir les conséquences de cette crise financière qui touche le pays. Maintenant, est-ce que ce décret aura des conséquences sur le plan sécuritaire? Cela va sans dire. Simplement parce que, habitués à des facilités financières qui n'est un secret pour personne, aujourd'hui, ils vont être réduits, je ne dirais pas à la mendicité. Donc les conséquences sécuritaires sont inévitables.
Les victimes elles-mêmes murmurent dans les coulisses, mais tenues par une obligation de réserve, elles n'ont pas encore jusque-là réagi officiellement. Mais pour le commun des mortels, le pire est à craindre. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, compte déployer ses unités dans les localités les plus affectées par les récents combats entre les forces armées congolaises et les Maïmaï et Yakutumba au sud Kivu. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Maman Sidikou, l'a déclaré ce mercredi à Bukavu. Reportage sur place, Ernest Mouero.
Cette déclaration intervient après que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC ait séjourné le 11 juillet en territoire de Fizi, précisément dans la cité des Baraka, à plus de 200 km au sud de la ville de Bukavu. Il ressort des entretiens que Maman Sidikou a eu avec les organisations humanitaires, la société civile locale et les autorités administratives que près de 80 000 personnes ont fui leur village et logis en territoire de Fizi suite au théâtre de combats consécutifs aux attaques de Maïmaï et Yakutumba fin juin et début juillet 2017. Le président du bureau de coordination de la société civile du site Kivu, Maître Patient Bachombe, estime que l'activisme des groupes armés en ce moment est un arbre qui cache la forêt.
Ceux qui ne veulent pas que nous organisions les élections essayent d'alimenter les groupes armés de sorte que les élections ne se passent pas cette année. Nous voudrions vraiment que le chef de l'État et ainsi que les autorités de sécurité puissent doter, n'est-ce pas, de toute la logistique nécessaire à notre armée en vue de bouter hors état de nuire, n'est-ce pas, tous ces ennemis de la paix qui généralement sont appuyés et soutenus par des politiques.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC exprime sa compassion vis-à-vis des enfants, des femmes et des hommes qui ont été affectés par ces combats et promet un déploiement des éléments de la MONUSCO dans les zones les plus affectées.
Donc je voulais avant tout exprimer ma compassion. Nous espérons que toutes ces personnes pourront, avec le retour au calme, regagner leur village, leur foyer. Il est évident qu'il nous faudra endiguer le recrutement des jeunes dans les groupes armés. Dans ce cadre, la MONUSCO va s'attacher avec ses partenaires, aussi bien les autorités locales que les ONG et la société civile, étudier les moyens de soutenir la formation et l'insertion des jeunes pour renforcer la protection des populations, qui est une des composantes essentielles de notre mandat.
Monsieur Sidiko invite les autorités congolaises à dialoguer avec les groupes armés pour une pacification durable à Fizi.
Nous sommes, il faut le dire, très préoccupés par les abus contre les populations civiles et nous rappelons aussi combien nous sommes attachés au respect des droits de l'homme par tous, que ce soit les groupes armés, les milices ou les forces de sécurité.
Pour rappel, depuis la veille du 30 juin, jour de l'indépendance de la RDC, plusieurs localités de Fizi, dont Misisi, Lulimba, Lubonja, Iseke, Nyange, Tulonge, Lubichako, Ngalula, Ako, ont été progressivement contrôlées pendant quelques jours par le milicien Mai Mai Yakutumba avant que ces localités ne rentrent avec ou sans combat sous les contrôles des FARDC. Selon des sources militaires, à ces jours, ces éléments insurrectionnels se sont retranchés dans la forêt. Ernest Mouero Bukavu, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation donc du Congo, c'était donc un reportage d'Ernest Mouero. La ville de Gao devient incontournable dans la gestion de la crise malienne. La ville abrite le gouvernorat de la région de Kidal et certains déplacés de cette région. L'insécurité reste notable au quotidien et pour rassurer les populations, Gao s'organise pour faire face à l'insécurité. Kassim Traoré, reportage.
Une fois à Gao, de l'aéroport au centre-ville, on est frappé par les dispositifs sécuritaires devant certains bâtiments de l'aménagement, des barkans ou des officiers de l'armée malienne. Loin de cette sécurité de haut niveau, on est en pleine ville. Souleymane Sango, communicateur traditionnel, est venu faire des achats au marché de Gao.
C'est la peur au ventre. Nous remarquons qu'il y a des bandits dispersés dans la nature qui font des attaques partout, dans les carrés, dans les villages, sur les routes. Ils font braquer les gens, ils enlèvent les motos, ils enlèvent les véhicules, ils prennent tout ce que tu possèdes. On indexe certains groupes armés, on indexe d'autre part des bandits armés seulement qui n'appartiennent à aucun groupe.
Dans le quartier Château, non loin de la rotisserie Moua, avant d'arriver au bout de la rue, se trouve un bâtiment. Le drapeau malien est sur le toit de l'édifice. On est dans le gouvernorat de Kidal à Gao. Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, nous accueille.
Alors c'est vraiment pas facile. Nous utilisons différents canaux de la société civile. Nous parlons avec les groupes armés des deux camps, que ce soit de la plateforme ou de la SEMA. Nous menons des actions pour ce qui concerne la protection des populations civiles, l'appui aux populations en difficulté, l'accueil des déplacés, la scolarisation des enfants, donc la marche des écoles, la remise en état des structures de santé.
Notre passage coïncide avec le combat entre SEMA et la plateforme dans la ville d'Anefif. Même si le gouverneur garde espoir, il a condamné ces attaques des frères ennemis de Kidal.
Il y a des deux côtés des gens qui ne sont pas très sensibles au sort des populations civiles et qui veulent absolument en découdre au détriment de la paix. Je pense que c'est condamnable, quel que soit le côté d'où ça vient, mais ça ne doit pas nous décourager.
Alaï Ag est ressortissant de Kidal. Cordonnier, il travaille sous un petit hangar et gagne bien sa vie. Mais toujours, il pense à Kidal.
Ce qu'on voit en réalité, c'est le problème des ethnies. C'est ça qui se passe à Kidal
à Gao, c'est aussi des déplacés, surtout les femmes et les enfants. La porte-parole des femmes de Kidal lance un appel aux différents combattants.
Je m'appelle Dadi Awalet Moussa de Kidal, que je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les jeunesses de songer la vie des humains. La vie des humains, c'est pas la vie des poulets. Et un pays aussi, si il n'a pas des hommes, il n'a rien.
A signaler que le combat à Anefif a été très violent entre la SEMA et la plateforme. Anefif est actuellement contrôlé par la SEMA. Le bilan provisoire est de plusieurs morts de part et d'autre, des blessés, mais aussi des armes détruites. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Jean-Marc
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur les législatives sénégalaises du 30 juillet. Un scrutin avec un nombre record de candidats alors que la diaspora sera représentée pour la première fois au Parlement. Comment se déroule la campagne? Les nombreuses candidatures risquent-elles de peser sur le déroulement du scrutin? Quid du retour de l'ancien président Ouad? Que signifiera l'issue du vote pour la présidentielle de 2019? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Bénin, le tourisme est la deuxième source de rentrée de devises après l'agriculture et le commerce. Le Bénin, qui a un important potentiel touristique, vient de signer un mémorandum avec le Smithsonian, la grande institution qui gère les musées de la capitale américaine. Idriss Fall a fait le point avec José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du tourisme, qui était hier à Washington pour signer cet accord.
Ça signifie beaucoup pour le Bénin et pour notre projet touristique. Ça veut dire qu'il y a une exigence de notre part dans nos projets touristiques et nos projets muséaux notamment, de travailler avec les meilleurs. Et c'est une marque d'abord de confiance dans les projets que nous allons développer. Le musée à Abomey, à Ouida et surtout à Porto Novo. Ils sont venus en mission, ils ont vu, ils ont fait une semaine de visite et au terme de cela, ils nous ont donné leur accord de principe pour nous accompagner dans les contenus pour rendre nos grands projets de musée aux normes internationales.
Mais ça va coûter de l'argent. Combien et d'où va venir l'argent?
Oh, c'est une très bonne question. L'argent va venir essentiellement de choix que le gouvernement a fait. Le président Talon a fait un diagnostic implacable. Le Bénin est un pays qui n'a ni or, ni argent, ni pétrole. Il a l'agriculture et le port qui sont un petit peu arrivés au bout de ce qu'il pouvait apporter. Et pour générer de nouvelles ressources de richesse, pour créer un nouveau segment qui pourrait être l'avenir pour nos enfants, il s'est rendu compte que nous avions un trésor que personne jusqu'à présent n'avait exploité, que c'est le patrimoine touristique, historique, culturel du Bénin. Donc c'est un véritable trésor qui ne demande qu'à être développé. On est passé d'un budget estimatif pour les grands investissements dans le tourisme de 450 milliards de francs CFA initialement prévus à aujourd'hui 600 milliards. Et majoritairement, l'argent pour les musées notamment viendra du budget national. Puis, des partenaires, la Banque mondiale, le FMI et d'autres de ce temps-là.
Comme exemple d'intérêt touristique, Ouida. Est-ce que vous pouvez en parler? Ouida, c'est quoi?
Ouida, c'est déjà la première destination touristique au Bénin. C'est à 50 km de Cotonou. Et c'est une ville fameuse parce qu'elle a été créée quasiment pour le commerce de l'esclave. Les rois qui ont régné pendant 3 siècles à capturer des esclaves un peu partout dans les montagnes et les ramenaient à la côte pour les faire embarquer vers le Nouveau Monde. Et Ouida est devenu le principal port négrier d'embarquement. Plusieurs millions d'esclaves sont passés. Donc, c'est une ville qui a gardé donc une riche histoire. On a des traces très, très puissantes de l'arbre de l'oubli, de l'arbre du non-retour, d'endroits où les esclaves étaient parqués avant de partir. Il y a un chemin de croix. Et puis, autre chose très forte à Ouida, c'est la religion vaudou, c'est le berceau du vaudou, mais qui a réussi à cohabiter avec les religions révélées, la religion catholique, la musulmane. Donc c'est une ville de brassage religieux. Et enfin, c'est une ville de brassage ethnique et culturel. Au moment du return, lorsqu'il y a eu l'émancipation des esclaves et que certains sont revenus, notamment ceux qui étaient au Brésil, et aujourd'hui à Ouida, vous avez des De Souza, des Dorego, des Domingo, qui ont apporté, en revenant d'esclavage et en se réinstallant à Ouida, l'architecture afro-brésilienne. Tous les bâtiments de Ouida sont des bâtiments afro-brésiliens. La nourriture, on mange du feijoada comme au Brésil à Ouida, le concada, etc., etc.
C'était José Plia, le directeur de l'Agence nationale de promotion du patrimoine et du tourisme au Bénin.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Voilà. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, Jim Hammond, présentation Abdurrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.